ce nouvel épisode, nous recevons une professeure des écoles qui enseigne la langue des signes française à ses élèves. Bienvenue Priscilla.
Que tu débutes dans l'enseignement ou que tu sois confirmée, Didaschool te rendra expérimentée.
Didaschool, c'est le podcast qui te donne les meilleurs outils pour enseigner.
Présenté par Arkeadi et Cassiopée.
Didaschool, c'est la culture prof.
Alors Priscilla, est-ce que tu peux avant tout te présenter aux auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Priscilla, je suis professeure des écoles et j'enseigne dans le 94. Et cette année, je suis en REP, en réseau d'éducation prioritaire.
D'accord.
Tu as une petite particularité quand même, c'est que tu signes en classe.
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors, je peux juste, très peu de mots, présenter un petit peu ta particularité, c'est-à-dire que tu enseignes, c'est comme une LV2, mais ça serait la langue des signes ?
Oui, exactement. Oui. Donc, moi, l'année dernière, j'ai commencé à prendre des cours de langue des signes et j'ai trouvé intéressant de le mettre en application en classe et donc vraiment l'apprendre comme on apprend toute autre langue, l'anglais ou l'espagnol pour ceux qui font des LV2, langue vivante.
D'accord. Et comment est-ce que tu as découvert la langue des signes ? Qu'est-ce qui t'a amené à l'apprendre ?
Donc, moi, j'ai fréquenté la langue des signes toute petite parce que j'avais des voisins qui avaient des oncles et des tantes qui étaient sourds. Quand j'ai grandi ensuite au lycée, il y avait aussi une de mes camarades qui était sourde. Donc c'est vraiment une langue que j'avais envie d'apprendre depuis longtemps, mais je savais pas trop comment. Ça m'avait l'air compliqué. Et en fait l'année dernière, en septembre, je me suis blessée et j'ai été arrêtée pendant 3 mois. Et donc là, du coup, j'avais du temps et je l'ai utilisé justement pour m'intéresser d'un peu plus près à la langue des signes. De manière assez hasardeuse, il y a un compte qui s'appelle LSF Combat qui m'a suivi sur les réseaux, j'ai été voir. Et en fait, sur ce compte, il y a des vidéos en langue des signes et ça m'a redonné l'envie. Et donc de là, j'ai cherché une association pour pouvoir prendre des cours et c'est comme ça que ça a démarré.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu t'intéresses donc à la langue des signes, mais aussi à tout ce qui est culture, donc la culture sourde, c'est comme ça qu'on pourrait dire.
Oui, c'est ça, la culture sourde, on peut appeler ça comme ça, l'histoire sourde en tout cas. Moi j'ai toujours aimé les langues et c'est vrai que quand je m'intéresse à une langue, je m'intéresse aussi à sa culture. Enfin, pour moi ça va vraiment de pair, je ne me vois pas apprendre une langue et ne pas m'intéresser du tout à personne qui la parle en fait.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de la pratiquer en classe ?
Je trouvais que c'était intéressant. En fait, du coup, quand moi l'année dernière j'ai été arrêtée, j'ai repris environ en janvier et juste après il y avait la semaine du handisport. Du coup, mes élèves ils avaient été sensibilisés déjà à tous les handicap, visible et invisible. Et donc, j'ai trouvé que c'était une super approche pour pouvoir justement introduire avec eux ensuite la langue des signes, vu qu'ils connaissaient la surdité, qu'ils avaient pratiqué, par exemple, des sports dans la peau d'une personne avec un handicap. Donc, par exemple, ils ont fait du cécy foot, donc du foot avec les yeux bandés, des choses comme ça. Donc, suite à cette sensibilisation, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de continuer, en fait. Voilà.
Donc, en fait, oui, comme on disait, t'enseignes la langue des signes comme une LV2. Hein. Donc, est-ce que, par contre, tu leur fais de l'anglais à part ça ou c'est vraiment
de la langue des signes ? Non, on fait du français, de l'anglais et de la langue des signes. Et en fait, j'utilise la langue des signes, enfin, je l'enseigne vraiment comme je peux le faire avec l'anglais. Donc, on va apprendre du vocabulaire, etc. Ouais. On a aussi un rituel. Donc, tous les midis, en rentrant de pause déjeuner, en fait, on se regroupe, nous. Ouais. Et on a un rituel de date, de chaque jour compte. Et ça, on le fait aussi en langue des signes. Donc, on fait la date du jour, de la veille, du lendemain, quand il y a des anniversaires également. Du coup, on a appris tout le vocabulaire des jours de la semaine, des mois. On a appris aussi les nombres, du coup, jusqu'à 30. Et on a appris aussi les termes anniversaires, jeux anniversaires, et voilà.
D'accord. Et là, par exemple, tu le fais avec quel niveau tu
Là, j'ai des CE1.
D'accord. Et donc, c'est quotidien.
C'est
bien sous forme de rituel à midi, après le déjeuner. Est-ce qu'il y a des... Et comment tu as introduit, du coup, le nouveau vocabulaire ?
En fait, je le calque vraiment sur ce que je vais faire en français. Enfin, là, par exemple, on questionnait le monde, tout ce qui est le rythme cyclique du temps. Vu que je sais qu'on va
D'accord.
apprendre les jours de la semaine, ben, en parallèle, je vais également introduire le vocabulaire de la langue des signes. Et je fais ça en fait
D'accord.
partout. Donc, par exemple, en anglais aussi, quand on apprend les jours de la semaine en anglais, eh ben, j'avais
Oui.
aussi mis du coup les signes de la langue des signes en support.
D'accord.
Voilà. Donc, et je l'utilise vraiment comme, enfin, je l'enseigne comme une vraie langue, et en même temps, j'utilise comme un réel outil d'apprentissage pour les élèves.
D'accord. Et au niveau des élèves, justement, ils se sont appropriés la langue facilement? Comment ça passe
Oui,
par quoi?
assez vite. Ben, d'abord, en fait, avant d'introduire la langue des signes, je leur ai demandé s'ils connaissaient, s'ils savaient ce que c'était, s'ils l'avaient déjà vu, etc. Donc oui, il y en a pas mal qui en avaient déjà vu. En plus, dans l'école où je suis, il y a deux enfants qui sont appareillés. Donc a priori, ils sont pas signants, moi je les connais pas, mais ils
Ouais.
connaissaient en tout cas ce qu'était la surdité. Et donc,
Ouais.
à partir de là, j'ai introduit la langue des signes avec eux. Et en fait, ils ont tout de suite accroché. Et moi, je l'ai mis en place dès la première semaine d'école. Et donc,
Ouais.
quand il y a eu la réunion parents-enseignants, bah, les parents m'ont tout de suite dit, ah, vous faites de la langue des signes. Ils nous ont montré, c'est super. Donc, ils se sont vraiment tout de suite approprié ça. Et ils étaient très contents.
Ben oui, là, en plus, en ce moment, il y a vraiment pas mal on essaie pas mal de sensibiliser, hein, les parents et les jeunes parents, ceux qui vont avoir ceux qui ont des jeunes enfants.
Oui.
J'ai vu ça, oui, ou même ils proposent des langues des signes avec les bébés.
Oui, c'est ça. Après, la langue des signes avec le, enfin, c'est pas vraiment de la langue des signes avec les bébés, c'est vraiment de la communication gestuelle
Oui.
associée à la parole. Et du
Ouais.
coup, c'est un autre, enfin, c'est vraiment là, comme l'enfant, il n'est pas encore dans la parole, on va lui donner des outils pour s'exprimer autrement. Donc, c'est encore différent. Mais c'est vrai qu'en maternelle, par exemple, il y a beaucoup d'enseignants qui vont faire des comptines signées. Parce qu'on se rend compte
Voilà.
qu'avec les signes, eh ben, les enfants, déjà, ils s'approprient plus le chant. Et en plus de ça, ils retiennent beaucoup plus. Donc, je trouve ça dommage, du coup, qu'on puisse le proposer, bah, par exemple, au bébé. Ensuite, parfois, on va pouvoir le continuer en maternelle. Mais par contre, en élémentaire, on arrête tout. On apprend
Oui,
vraiment de manière classique.
mais quand tu signes en chantant, c'est plutôt du français signé. C'est, enfin, je veux dire, on n'a pas vraiment accès, à la particularité de la grammaire de la langue des signes.
Ben exactement, c'est pour ça que ça s'appelle des chansons signées, parce que
Voilà.
les chants qui sont vraiment traduits en langue des signes, ça s'appelle du chant signe, et c'est vraiment une autre discipline, ça n'a absolument rien
Oui,
à voir.
ouais,
Donc là, on parle
ouais.
de chant signé, de comptine signée, et c'est
Voilà.
en effet, ça n'a rien à voir avec ce qu'est le chant signe.
Justement, là, on parle de chant. Est-ce que ça t'arrive de leur raconter des histoires en langue des signes?
Oui, depuis le début de l'année, je leur en ai raconté une. Du coup, c'est le livre, je n'ai plus le titre en tête, mais en fait, c'est un livre et sur chaque page, il y a les signes importants de l'histoire.
Ah
Donc, au
oui.
début, moi, je leur ai raconté l'histoire et je faisais quelques signes ponctuellement. Et après, en fait, je leur ai complètement raconté en langue des signes, du coup, vraiment sans parole, en langue des signes. Et du coup, c'est
Ouais,
pareil,
d'accord.
ils ont bien accroché.
Quels sont tes outils pédagogiques? Est-ce que c'est déjà des supports qui existent? Est-ce que tu en crées? Est-ce que tu t'en prépares, t'en crées spécial, par exemple, pour des séances particulières? À quel outil pédagogique tu as recours?
Alors, ça va vraiment dépendre. Soit je les crée, soit je les trouve. Par
Oui.
exemple, pour le rituel, en fait, j'ai une roue. Et j'ai
Oui.
une roue des jours de la semaine. Et en fait, elle est directement traduite, enfin, en langue des signes. Donc, il y a
Oui.
le signe pour hier, aujourd'hui, demain. Et il y a tous les jours en langue des signes. Ça, je l'ai trouvé sur Pinterest. Donc, je l'ai
D'accord.
juste découpé, je l'ai utilisé. Après, moi, j'ai créé un domino pour la dactylologie, donc l'alphabet, pour
Ouais.
qu'ils puissent mettre en parallèle l'alphabet, du coup, en français et la dactylo.
Mmh.
Et j'ai aussi une boîte de jeux des éditions Mandarine, Avenue Mandarine. Et
Oui.
eux, dedans, il y a un jeu de cette famille, il y a un loto, et
Oui.
il y a un memory aussi sur la dactylo. Du coup, soit je crée, soit j'utilise déjà ce qui est mis à disposition.
Donc il y a déjà des supports quand même existants.
Oui. Il y en a aux éditions, par exemple, Monica's Company. Il y a pas mal de livres sur les animaux, sur tout ce qui est autour des aliments. Il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, on peut trouver vraiment beaucoup de choses pour mettre à disposition des enfants et surtout nous l'utiliser en tant qu'enseignants, en tant que support, en fait.
On évoquait tout à l'heure ton intérêt pour la culture sourde, mais est-ce
Oui.
qu'en classe tu fais intervenir soit des personnes sourdes ou malentendantes, ou est-ce que tu donnes accès aux élèves à des vidéos peut-être
Alors, avec
Alors,
mes élèves, du coup, on regarde des chants signes, pour le coup. Donc, on regarde, par exemple, les mains baladeuses, ou les vidéos de Lady Tual, qui fait aussi du chant signe. Du coup, ils ont accès directement comme ça aux chants signes. Et la semaine prochaine, il y a Clara, du coup, du site Femmes Bioniques, qui va intervenir dans ma classe pour faire une séance. sensibilisation autour de la surdité, leur parler de la surdité, leur apprendre aussi quelques éléments de langue des signes.
Et est-ce qu'à long terme, tu aimerais te spécialiser dans l'enseignement aux élèves sourds et malentendants?
Oui.
Ouais, voilà.
Et oui, totalement. Après, moi, je suis dans...
Comment? Il faudrait que tu ailles à Chambéry, c'est ça?
Bah, en fait, le master, si j'ai bien compris, il est là-bas. Mais après, moi, en tant que professeur des écoles, je peux passer le KPI. Oui. Et du coup, trouver une Ulysse TFA, donc trouble des fonctions auditives, et enseigner auprès d'élèves sourds. Simplement, moi, je suis dans le Val-de-Marne et il n'y a qu'une seule école qui fait ça, dans laquelle il y a 5 postes. Et les postes sont triés et en plus, ils sont loin de chez moi. Donc là, c'est un peu bloqué. J'avais été une journée à observer l'année dernière et la classe, enfin, la prof de la classe où j'ai été m'a expliqué qu'elle est part à la retraite dans 3 ans. Donc, c'est d'ici là, c'est possible.
Voilà. Ouais, voilà, t'as le temps de perfectionner.
Il n'y en a pas beaucoup, en fait, des classes avec... Il y a beaucoup de classes Ulysse pour tout ce qui est troubles autistiques, choses comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup pour les troubles auditifs.
Est-ce qu'il n'y a pas des classes en inclusion, c'est-à-dire qui seraient des classes pour sourds, mais qui sont en inclusion dans une école dite ordinaire, quoi?
Alors, dans le 94, je ne sais pas, mais dans d'autres départements, oui, ça existe. Par exemple, dans le 92, il y a un institut des jeunes sourds qui est directement dans une école à Bourg-la-Reine.
Oui, voilà.
Voilà, mais du coup, c'est pas mon argument.
Les critères ne sont pas réunis encore, du moins.
Voilà, exactement. Mais effectivement, j'aimerais.
Donc là, tu as certainement donné envie à des enseignants de se lancer dans l'enseignement de la langue des signes. Donc, pour un enseignant qui voudrait s'y mettre, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment maîtriser la langue avant de l'enseigner en classe, ou peut-être que juste des rudiments suffisent pour débuter? Comment tu vois ça?
Je pense que si on utilise la langue des signes un peu comme on peut faire avec le bébé signe, en effet, des rudiments, savoir certains vocabulaires peuvent suffire. Maintenant, pour l'enseigner comme une langue, il faut vraiment être formé. C'est vraiment très important d'avoir une formation auprès des formateurs sourds et vraiment des formations qui sont reconnues, enfin des organismes de formation. Parce que sans ça, ça me semble vraiment difficile d'enseigner une langue, surtout que, enfin, je trouve que contrairement aux langues orales, on ne peut pas être autodidacte en langue des signes. Je trouve ça impossible. Alors qu'en anglais, on peut
des
séries en anglais, des choses comme ça. Là, déjà, les ressources vidéo, je trouve qu'il y en a peu en langue des signes. Et au-delà de ça, sans l'échange et sans vraiment la fréquentation de personnes sourdes, c'est vraiment impossible de maîtriser cette langue.
Et pour ceux qui voudraient quand même se lancer, donc tu leur conseillerais d'abord de prendre des cours à l'extérieur, d'être formé, que ce soit dans le cadre d'une association ou dans...
Ou de fréquenter des sourds, tout simplement. Ils ont des associations de personnes sourdes autour de chez eux, ou s'ils connaissent des personnes sourdes, c'est encore le meilleur moyen d'apprendre, c'est comme l'immersion pour toutes les langues. Donc oui, vraiment, c'est ce que je conseillerais, parce que même les vidéos, au début, moi, j'apprenais en vidéo, par exemple, et quand j'ai été passée, parce qu'en fait, pour pouvoir intégrer les organismes de formation, en général, ils font passer un test de niveau pour savoir où on en est et savoir dans quel niveau ils vont nous intégrer. Moi, par exemple, même si j'ai regardé tous les jours des vidéos pendant un mois, que je me suis entraînée toute seule, il a quand même fallu que je reparte de zéro, parce qu'il y a vraiment des choses finalement, par exemple, quand on apprend l'anglais, on va apprendre le vocabulaire, on va apprendre la prononciation, alors que les premiers cours de langue des signes, moi, ce qu'on nous a appris à faire, c'est surtout à décrire des images, à plus utiliser nos yeux que nos oreilles, et du coup c'est vraiment totalement une autre approche, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre en vidéo, en fait. Et à partir de là, on comprend à quel point la langue des signes elle s'étudie différemment des langues orales.
Surtout qu'en plus c'est une autre logique. Moi, je me rappelle d'un exemple qu'on avait donné par exemple, en français, on peut très bien dire « je mets le verre sur la table », alors qu'en langue des signes, il faut d'abord poser la table pour pouvoir mettre un verre dessus.
C'est ça. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était que des images qui se dessinaient. Donc, c'est sûr que si on veut poser un verre mais que la table n'est pas déjà mise, ça n'a pas de logique. Donc, c'est vrai que c'est totalement autre chose. Et un même signe, c'est ça. Et un même signe peut vouloir dire plusieurs choses, juste l'expression du visage va faire changer son sens, par exemple. Exactement. Et ça, c'est pareil, on l'appréhende pas. Et quand on parle, en fait, on n'a pas l'habitude d'utiliser autant notre corps, nos expressions du visage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à apprendre. Et moi, je trouve que c'est pas facile, d'ailleurs. Je trouve que c'est une des choses les plus dures à s'approprier.
Comment ils ont réussi, eux, parce qu'il y a une sorte de théâtralisation presque au niveau du visage pour exprimer certaines choses et tout. Tu as eu du mal alors
Mais non, mais les enfants, ils sont super forts pour ça, eux. blocage que nous, on a en tant qu'adultes, par exemple, ne pas exprimer nos émotions, ou savoir se contenir, savoir montrer certaines choses et pas d'autres. Eux, les enfants, ils n'ont pas encore ça. Ils sont encore enfants là-dessus, et pour ça,
Ils sont vraiment désirés, quoi.
Oui, c'est ça.
D'accord. C'est vraiment inné.
On va terminer avec la capsule d'IdaTag. On va te poser quelques questions autour de l'école.
Tu peux me retourner en enfant si tu veux, hein, pour faire certaines questions.
Tu es prête?
Oui. Quel est ton meilleur souvenir d'école?
Alors, mon meilleur souvenir d'école. École jusqu'à CM2 ou école d'une manière générale?
De manière générale. Hein.
Je pense que c'était vraiment, d'une manière assez générale, du coup, tous les spectacles de fin d'année qu'on peut faire justement à l'école. Parce que on sait qu'on a travaillé toute l'année et après c'est une telle satisfaction de voir nos parents, de leur présenter tout le travail de l'année. Ça, je me souviens. Enfin, c'est vraiment des excellents souvenirs à chaque fois.
Et ce que tu as détesté à l'école?
Alors, ce que j'ai détesté à l'école, moi, je me suis beaucoup ennuyée en fait. Je me suis beaucoup ennuyée à l'école. Et c'est vraiment en général ce que j'en garde. Donc heureusement quand même, parfois on a des enseignants qui sont assez excellents et qui arrivent à pallier ça, mais c'est vrai que ouais, je me suis beaucoup ennuyée.
Alors, quelle serait la qualité que tu préfères chez une enseignante ou un enseignant?
La qualité, je dirais l'empathie, parce que les élèves, ce sont des enfants, mais du coup, ce sont quand même des personnes à part entière. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on arrive à comprendre qu'un autre adulte, par exemple, un jour n'est pas disposé, ou que ça va pas, ou qu'il a des soucis. Et c'est vrai que pour les enfants, on est moins disposé, je trouve, à comprendre ça. Donc pour moi, l'empathie, je trouve que c'est très important.
La plus belle couleur, selon toi, pour repeindre une classe?
Je dirais du bleu, assez clair.
Ouais. Le ciel, quoi. Couleur du ciel.
Ouais, la liberté, tout ça.
Est-ce que tu aurais une histoire ou un livre à conseiller à des élèves?
Alors, à des élèves, moi, j'ai beaucoup aimé... Alors, le premier livre, c'est un livre en colère. C'est un livre, en fait, qui est en colère. Et du coup, au début, il est tout rouge. Et à la fin, il retrouve sa couleur normale parce qu'il arrive à s'apaiser, il arrive à se calmer. Et ce livre-là, il est préconisé pour les tout-petits. Mais je trouve que pour un coin de retour au calme, même pour des plus grands, c'est assez intéressant parce qu'au bout d'un moment, par exemple, on nous explique que le livre est en colère. Donc, on peut le déposer là, on va le laisser se calmer et puis hop, de revenir vers le livre plus tard. Et du coup, ça, on peut le mettre en parallèle avec des personnes et se dire peut-être que là, tout de suite, cette personne-là est en colère, on va la laisser se calmer, on va la laisser s'apaiser et puis quand elle sera prête, hop, on pourra engager une conversation avec elle.
Tableau que tu accrocherais dans une salle de classe?
Alors, un tableau, je sais pas, mais moi, je suis très citation. Du coup, j'aime beaucoup les citations type... soit je gagne, soit j'apprends, ou que l'erreur est utile pour apprendre, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment important, surtout l'erreur, parce que d'ailleurs, on parle beaucoup de fautes, et je trouve que c'est important d'expliquer aux élèves qu'ils peuvent se tromper, que tout le monde se trompe, et que c'est comme ça qu'on va en tirer des leçons et qu'on va avancer.
Quel était ton jeu préféré de récré?
L'élastique.
Oh là là.
J'y ai joué tout le temps, je crois.
L'école de tes rêves?
Alors pour moi, l'école de mes rêves, ce serait une école déjà où c'est pas les classes ne sont pas faites par âge, parce que je trouve ça hyper important en fait de fréquenter d'autres classes d'âge, plus âgées d'ailleurs ou plus jeunes, et vraiment apprendre des uns des autres, et pas école comme lieu de vie en fait, pas uniquement comme un lieu d'apprentissage, un lieu que de savoir, mais vraiment un lieu de savoir être et de savoir vivre.
Est-ce qu'il y aurait une enseignante ou un enseignant qui t'a particulièrement marqué?
J'ai eu une enseignante au collège, notre enseignante de PS qui s'appelait Corinne Erigo, et elle était absolument géniale. Elle était vraiment très humaine. Et même si elle était... Enfin, du coup, les profs de PS, c'est ceux qu'on fréquente le moins. Mais c'est quand même ceux avec lesquels, en général, on a le plus de liens parce qu'on a une autre... on a une autre relation. Vu que c'est du sport, en général, c'est plus vu comme quelque chose de ludique, même si ça reste une vraie matière. On a beaucoup moins de pression à aller en sport, par exemple, qu'en histoire. Et souvent, on a plus envie d'y aller. Et c'est vrai qu'elle a vraiment utilisé ça pour créer de réels liens avec nous. Et ça a été une super enseignante.
Eh bien, écoute, on termine ce DidaTag par une dédicace au prof de PS.
Il faut, c'est important.
Et on te souhaite beaucoup de succès. Hein,
on te remercie.
Bon, on pourrait
partager ce témoignage avec vous. Dis-nous par contre, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui souhaiteraient te suivre, en savoir plus? Alors, je sais qu'il y a le compte Instagram, tu as aussi un site.
Oui. Alors, Oui, en fait, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Signe après moi et j'ai un qui est vraiment dédié à la langue des signes et j'en ai un autre un peu plus général qui s'appelle priscilla.pmfg et du coup, j'ai un blog éponyme qui s'appelle pmfg.fr.
Évidemment, on mettra tout en description du podcast et sur notre blog, toutes les références. Et on ajoutera également les références dont tu as parlé, les maisons d'édition
Super.
et les
Super.
différences sur le champ signe. Voilà, on te
Super.
remercie.
Merci.
Avec
Merci
plaisir.
À toi.
Didascu.
Alors Cassiopée, aujourd'hui tu veux nous parler d'un dojo, une dojo? C'est quoi exactement?
Non, Classe Dojo. Alors Classe Dojo, qu'est-ce que c'est? Classe Dojo, c'est une application qui est avant tout anglophone, mais qui commence un peu à s'étendre dans le monde francophone. Et c'est une application de gestion de classe, donc une application qui va nous permettre de gérer la classe efficacement. Alors dans un premier temps, on va rentrer les noms de nos élèves, on va créer notre classe. Et alors ce qui est rigolo, c'est que chaque élève va pouvoir choisir un petit avatar, un petit personnage qui va le représenter. Et tout au long de la journée, eh ben, l'enseignant, il va pouvoir faire participer cet avatar, donc lui donner des points bonus lorsque l'enfant participe. Ou alors, à contrario, enlever des points lorsque c'est moins satisfaisant. Et les enfants, bah, ils ont un retour direct et ludique, puisque c'est des petits personnages assez rigolos. Après, il y a un retour aussi qui se fait dans Classe Dojo pour les familles. Donc, les familles peuvent se connecter à Classe Dojo et ils ont en direct live tout ce qui se passe, la vie de classe, en fait, tout ce qui se passe dans la classe. Alors là, on parle du comportement, mais c'est pas forcément... C'est pas forcément que sur cette thématique-là, ça peut servir aussi de cahier de vie en ligne. Donc on peut photographier des moments de classe, photographier des sorties. Les parents et l'enseignant ou l'enseignante peuvent communiquer aussi par ce biais. Donc c'est extrêmement rapide, extrêmement facile. S'il y a une sortie de prévue ou une réunion, on peut le communiquer aux parents par ce biais-là. Et comme on le sait, de nos jours, tout le monde est connecté sur un portable, tout le monde a accès à des applications, donc ça facilite grandement les échanges.
Mais c'est quand même, ça reste sécurisé.
Oui, complètement, ça reste complètement sécurisé. Donc il y a un code qui permet aux familles de se connecter et eux seuls ont accès aux photos et aux informations de la classe.
Où est-ce qu'on l'obtient? Enfin, comment on fait pour l'utiliser?
Eh ben, tout simplement sur son App Store pour les aficionados de Apple. Pour les autres, c'est le Google Play et c'est une appli comme une autre. Alors, une appli qui est gratuite, il faut le souligner. Mais malheureusement, qui nécessite quand même d'être équipé, je pense, d'un vidéoprojecteur au minimum, voire d'un TBI, c'est le must, pour vraiment pouvoir exploiter l'application dans son intégralité et qu'elle soit vraiment efficace et agréable à utiliser.
Toutes les références citées dans cet épisode sont sur le blog Didaschool.
didaschool.wordpress.com.
Partagez cet épisode autour de vous et rejoignez-nous sur Instagram.
Mettez 5 étoiles sur iTunes et sur toutes les plateformes de podcast.
Et à très vite pour un nouvel épisode de
Didaschool.